France Inter. France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
C'est ce qu'on appelle jouer son va-tout, tout mettre sur la table, faire tapis, dire chiche pour voir François Bayrou coincé dans une rentrée dans des sables mouvants à dégainer la question de confiance. Seule l'adhésion des Français peut changer quelque chose. Ce sont des mots qu'il avait prononcés dans le journal Le Parisien ce week-end et c'est bien ce qu'on a entendu aujourd'hui. Vous le savez maintenant, donc le coup politique de François Bayrou, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée. Il part du principe, le Premier ministre, que les Français, eux, ont compris l'urgence de la dette, de sa résorption. Il part du principe que c'est le plan d'ensemble d'abord, les mesures après. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire d'abord, oui, le principe de la gravité nous oblige à résorber la dette, on verra comment on fait après. Un sacré pari, il a besoin d'une majorité qu'il n'a pas. Il en a profité même pour tacler très sévèrement LFI et Jean-Luc Mélenchon, spécialiste de l'organisation du bordel, en citant le patron de la France Insoumise. Tacle aussi au passage pour Sandrine Rousseau et cette phrase de cet été, la rentabilité des agriculteurs, j'en ai rien à péter. LFI, qui donc a dit sans surprise qu'elle voterait non, évidemment pas de confiance. Marine Le Pen, au nom du RN, a dit non aussi. La dissolution est le seul moyen pour les Français de choisir leur destin, fermez les guillemets. Les écolos ont dit non également. Si François Bayrou comptait au moins sur l'abstention du RN, c'est mal parti, c'est un pari raté. Pour arrondir quelques angles, il a parlé de justice dans la répartition de l'effort. Les plus favorisés devront prendre leur juste part. Tout va se passer le 10 septembre, donc deux jours avant cette fameuse journée du 10, qui donne 15 jours pour réfléchir dans chacun des groupes parlementaires. Est-ce que c'est un coup politique? Est-ce que c'est un acte de kamikaze? Une énorme balle dans le pied? C'est à vous de nous le dire. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et la première question, puisqu'on les lit ce soir dans le téléphone sonne, c'est celle d'Augustin qu'on a déjà cité. Il a 18 ans, il habite au Havre. Cette annonce, dit-il, me laisse plutôt perplexe, puisque s'il n'avait pas l'assurance de rester en place, il ne prendrait pas ce risque, François Bayrou. Doit-on comprendre implicitement que des accords ont été passés entre le Bloc central, le Parti socialiste et le RN, permettant à François Bayrou et à son gouvernement de rester en place? Ça va nous faire balayer quelques formations politiques que cette question du jeune Augustin qu'on embrasse. Pour discuter ensemble autour de la table du téléphone, il y a Thomas Legrand. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Fabien.
Vous êtes l'éditorialiste à Libération que l'on connaît. On vous retrouve le dimanche dans la matinale de France Inter. Laurence Perron, vous êtes journaliste au service politique de France Inter et vous suivez le Parlement. Et Yael Gauze est éditorialiste politique sur France Inter dans le carrefour du 5-7.
Ben, bonsoir à tous.
Est-ce qu'on peut répondre à la question d'Augustin, peut-être en la reformulant un peu, parce qu'on sait maintenant ce qu'a dit notamment le Rassemblement National. Est-ce que, Laurence Perron, ça pouvait être dans l'air, effectivement? C'est ce qu'il avait imaginé. De toute façon, le R va s'abstenir. Il y aura quelques voix PS, on ne sait pas trop. Donc ça va passer.
Alors, il s'est peut-être dit ça.
Et ça a duré 5 minutes?
Ouais, après,
un peu plus.
Il y a quelques, enfin, je pense à Michel Rocard qui disait ne jamais privilégier le complot, mais plutôt la connerie, disait-il. Et on a un peu l'impression que quand même François Bayrou s'est pris les pieds dans le tapis en pensant effectivement que le RN, tout à sa stratégie de respectabilité, n'allait pas y aller. Le problème, c'est, et vous l'avez dit aussi, c'est ce mouvement de contestation qui monte dans le pays et qui est parti, on le sait, et de réseaux altermondialistes, mais aussi de réseaux très proches du RN, eux qui sont très très attentifs à toutes ces boucles sur les réseaux sociaux, ont vu qu'à un moment donné, ils ne pouvaient pas continuer à soutenir François Bayrou comme la corde le pendu. Et effectivement, François Bayrou a pris la corde pour se pendre tout seul. Il leur a finalement facilité le travail, me semble-t-il.
Donc il abrège le suspense ou il abrège le supplice, là, au point où on en est, Thomas Legrand?
Oui, c'est une sorte de quitte ou double. Il faut expliquer peut-être.
Mais au fond, pour pouvoir dire, c'est pas de ma faute.
Non, oui, pouvoir dire. Non, mais il est peut-être très tout à fait sincère dans le constat catastrophique qu'il dresse. Et il dit, en gros, il scinde le problème en deux. En gros, d'abord, vous me donnez. Vous acceptez de dire avec moi qu'il y a un gros problème, qu'il y a un problème de dette qu'il faut traiter à hauteur de 44 milliards. Et puis, si vous acceptez. Et il a quand même fait une avancée. Eh bien, on renégocie tout derrière. Tout est sur la table. Il a laissé entendre, après la question d'un de nos confrères, assez judicieuse, qu'il pouvait...
Sur le 49-3, c'est cette question que vous pensez?
Oui, qu'il pouvait peut-être ne pas utiliser le 49-3, c'est-à-dire s'en remettre vraiment aux parlementaires, c'était peut-être une réserve, c'est-à-dire qu'il pouvait penser que laissant, que disant ça, les socialistes allaient se dire ah bien nous on va dire ok on peut y aller, mais n'utilisez pas le 49.3 et comme ça on pourra faire passer les nos mesures. Ça pouvait marcher que dans le cadre où le rassemblement, c'est une question arithmétique, le Rassemblement national s'abstenait. Il se trouve que il ne s'abstient pas. On reviendra d'ailleurs sur cette petite séquence qui entre Bardella et Marine Le Pen. Il y a des choses à dire.
Exactement.
On y reviendra tout à l'heure.
Mais surtout,
il se trouve comme il ne s'abstient pas, ça ne marche pas. Son pari ne marche pas. Et je pense que là, vous citiez Michel Rocard. On peut citer surtout Mendès France qui a gouverné 8 mois en 1954 en disant « Moi, je ne compte pas les voix du Parti communiste, par exemple. Je ne compte que mes voix et finalement, je suis intransigeant sur ce qu'il faut faire. »
On peut citer François Hollande ce matin sur l'antenne de France Inter. Il y a Elgos qui dit « Nous travaillons au budget, la stabilité, etc. » Enfin, dans l'idée, en fait, là, François Bayrou lui donne ce qu'il a réclamé ce matin, en quelque sorte. Sauf que, du coup, le PS se retrouve dans une drôle de situation, là aussi. On ne les imagine pas sauver la tête du soldat Bayrou, là.
Thomas Legrand disait « C'est qui tout double ?» Ça ressemble plutôt à du kit. Parce qu'en réalité, il a dit lui-même si je n'ai pas le vote de confiance... Quitte dans le sens où...
Quitte chaos, quoi. Quitter, ouais.
Quitter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fonctionné en deux temps. Son raisonnement, c'est de dire vous êtes d'accord avec moi, vous me donnez la confiance parce que le sujet prioritaire à la Mendès, mon sujet à moi, c'est la vérité sur le budget, désendetter la France pour que nos enfants n'en souffrent pas. Il a beaucoup cité nos enfants qui sont à l'école et qui ne savent même pas encore demain ce qu'ils subiront de l'action politique actuelle. Et deuxième temps, on négociera mesure par mesure une fois que vous m'aurez donné la confiance. Mais le problème, ça veut dire c'est un blanc-seing sur la ça veut dire un blanc-seing d'entrée de jeu sans savoir comment le brouillon va évoluer.
Donc c'est une bonne opportunité pour le Parti socialiste parce que là ils avaient de quoi faire passer plein de choses.
Sauf qu'ils ont aucune garantie en votant cette confiance que les concessions seront faites avant, d'ici au 8 septembre.
Il leur avait donné justice dans leur répartition de l'effort. Il leur a donné ça.
Mais d'autant qu'il y a un précédent quand même, c'est-à-dire que il faut quand même se rappeler, et les socialistes le portent comme un boulet, qu'ils ont sauvé la tête de François Bayrou en obtenant des choses que finalement François Bayrou leur a repris. Il les a même humiliés face à la représentation nationale sur la petite motion de censure là, qui était histoire de dire que quand même ils existaient. Et ça, c'est quelque chose qui reste très fort chez les socialistes. Ils n'ont pas envie de se faire humilier une deuxième fois.
Ce qu'on ne peut pas enlever à François Bayrou, c'est cette sincérité-là sur la question de la dette et du budget. C'est sa marotte.
Depuis toujours,
présidentiel 2007, c'était sa candidature portait sur la dette. Donc lui,
il suit son fil conducteur. Il a fait partie de plein de majorités qui se sont responsables parce que lui, ils disent j'ai jamais été au pouvoir.
Enfin, il a été commissaire du budget, commissaire au plan pendant quasiment 10 ans.
Mais la manière dont il le fait là, tel qu'il l'a fait cet après-midi, ressemble vraiment à un baroud d'honneur, c'est-à-dire dire je suis parti avec les honneurs sur mon idée. Ils n'ont pas voulu de moi pour mener ce combat-là. Je pars, mais avec le panache. Voilà. Et puis je peux éventuellement, si ça se passe mal, être candidat à la présidentielle.
Alors voilà. Alors deux choses. On va quand même faire quelques calculs pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien pourquoi le trou est un trou de souris pour une mini-souris. Mais enfin, est-ce qu'il existe quand même? On va parler effectivement de cette séquence Rassemblement National avec Jordan Bardella d'abord, et puis Marine Le Pen après, qui va beaucoup plus loin. Je voudrais quand même avant vous lire ce message de Yves au 01 45 24 7000, parce que en le lisant, je me dis que c'est exactement à ces gens-là que François Bayrou entendait s'adresser, sauf qu'évidemment, c'est la représentation nationale qui vote. J'en ai marre, nous dit Yves. Bayrou pose un problème, et contrairement à ce que je lis dans la presse, les Français en ont assez quand un type s'attaque au problème de l'endettement de la France. Il faut l'écouter. Qu'est-ce que ça dit dans la petite musique de l'opinion publique, ça, Thomas Legrand? Parce qu'on a beaucoup dit, quand même, ces derniers mois, que le fait que les Français, désormais, effectivement, ont compris qu'il y avait un problème de dette, et que c'était rentré dans la conversation, ce qui n'était pas forcément le cas.
C'est toujours ça. C'est-à-dire que il y a un problème de dette. Une majorité de Français en convient, est inquiet. On est globalement conscient qu'on va dans le mur budgétaire, mais après, quand on discute du cas par cas, comme chacun pense que c'est à cause des autres, comme le Rassemblement National n'arrête pas de dire que c'est à cause des étrangers, comme la gauche n'arrête pas de dire que c'est à cause des riches, comme la droite n'arrête pas de dire que c'est à cause des assistés, comme le centre n'arrête pas de dire que c'est à cause de tout le monde, chacun se dit c'est vraiment à cause de quelqu'un. Et quand vous avez cet été, moi ça m'a beaucoup frappé, quand vous vous avez quelqu'un comme Retailleau qui dit il y a les bons Français, il y a les salauds. Quand il y a des voilà, quand on fracture la société, quand on fracture la société française et qu'on parle simplement à des fragments de la société française, au moment où il faut dire à tout le monde ah bah écoutez on a un problème global et soyons unis, ça ne marche pas. Donc là, effectivement, ça ne marche pas. Alors maintenant, François Bayrou soigne sa sortie. Il va sortir. En un mélange de Mendès et Churchill, c'est-à-dire le courage et le parler vrai, le sang et les larmes, et puis je pense qu'il va espérer revenir en 2027.
Ah oui, vous y croyez, vous, une candidature?
Bien sûr, il ne peut pas abandonner comme ça, c'est évident.
C'est chevillé au corps.
Olivier nous dit ceci, et ça rejoint ce que vous disiez les uns et les autres sur le fait qu'effectivement le pari de François Bayrou, c'était de dire on parle de la dette d'abord, on verra bien comment après, mais ce que nous dit Olivier, c'est on ne vous demande pas de savoir si vous êtes prêt à faire des économies. La question, c'est comment? Et c'est la même question, au fond, pour la retraite à 64 ans. Moi, je ne suis pas contre. La question, c'est comment? Le débat n'est pas pour ou contre. Le débat, c'est comment?
Mais c'est pour ça que je suis absolument d'accord avec ça. Ouais. C'était pas idiot de scinder en deux.
Mais c'est le piège qui se referme sur François Bayrou, parce qu'il a scindé les choses en deux.
Oui, mais c'était, intellectuellement, c'est pas idiot. On est tous d'accord pour dire qu'il y a un gros problème. Le vrai débat doit se faire sur le comment.
La confiance, c'est sur le comment.
Ce qu'il a passé son temps à répéter pendant son intervention, qui, en gros, il n'y a rien de neuf dans cette intervention. Personne n'a regardé, ou très peu de gens, quand on voit les chiffres, mais ces petites vidéos sur YouTube, il répétait exactement...
Alors, pas personne, mais c'est intéressant les chiffres. Hein. 135 000 la première, 11 000 la deuxième.
Oui. Voilà. Et en gros...
Il y a 2 millions de personnes qui vous écoutent ce soir.
Et en gros, disait-il, il faut travailler plus et réduire la dette. À aucun moment, il n'expliquait comment on pourrait faire rentrer aussi plus d'argent dans les caisses de l'État, et c'est ce que lui reproche la gauche. Alors on peut dire aussi que la gauche joue sa propre partition, mais de facto, il ne leur a jamais donné quitus là-dessus. François Bayrou, aujourd'hui, met sa tête sur le bio en disant « faites-moi confiance, ou après moi c'est le chaos ».
Il dit quand même « peut-être qu'on peut faire payer un peu plus les plus aisés
enfin, ». On ne sait pas comment.
Il dit pas comment, mais effectivement, il donne juste que ça. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire, au fond, j'allais dire, presque la même erreur que Emmanuel Macron lorsqu'il décide de dissoudre? En fait, il dissout en se disant non mais pour éviter le chaos justement il se passera quelque chose et j'aurai une majorité beaucoup plus stable.
Je pense qu'il est assez fin politique pour lire arithmétiquement où en est l'Assemblée aujourd'hui depuis la dissolution et il sait que c'est extrêmement périlleux.
Sauf s'il a cru, pareil comme nous tous, à l'abstention du RN. On a tous joué à faire des calculs dès l'annonce
De Bayrou.
En faisant du donnant.
On a tous enlevé d'abord les 123 députés RN ou apparentés, et on s'est mis à calculer en fonction de ça.
Et en divisant les socialistes, ça pouvait passer, le trou de souris était là. Maintenant que le RN s'abstient, je pense qu'il n'y a même plus un trou de souris.
Non, ça s'abstient pas.
Vote contre. Et le PS devrait donner... À mon avis, Olivier Faure est sur une chaîne concurrente à 20h.
Oui, et il va certainement dire qu'ils vont voter contre.
Tous les échos du groupe socialiste, que j'ai depuis 2 heures, c'est on ne peut pas ne pas voter contre.
Ils auraient peut-être pu être divisés et hésiter si le RN, effectivement, s'était abstenu, et si certains, peut-être François Hollande, Gage, s'étaient dit... Bon, bah alors là, on nous donne la possibilité de négocier.
Mais Hollande était assis ce matin, quand vous l'avez entendu ce matin.
Sauf que Hollande n'avait pas les éléments qu'on a,
il n'avait
pas
encore... Ah, mais ça c'est sûr, oui.
Non, mais depuis juste après le discours, moi j'ai eu quelques socialistes en ligne qui étaient plutôt parmi les modérés et qui étaient... dans l'optique de ça se regarde, parce que s'il n'y a pas de 49-3, effectivement, c'est nous qui faisons le budget. Mmh. En gros, c'est nous qui faisons le budget.
Est-ce qu'on peut revenir un instant, on verra ce qui se passera après, du coup, si effectivement le gouvernement tombe, qui et comment revenir à ce psychodrame qu'on a vécu avec beaucoup de fatigue ces derniers mois, Thomas Legrand. Est-ce qu'on peut revenir sur cette séquence? Donc, effectivement, Jordan Bardella pour le Rassemblement National. La première chose qu'il dit, c'est il n'est pas question de voter la confiance, mais le doute subsiste sur son abstention ou pas, l'abstention des députés RN ou pas. Et puis, un quart d'heure après, Marine Le Pen, il va, là, sur un grand coup, en disant, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix, dissolution. Voilà. Alors, elle va même jusqu'à la dissolution.
C'est très intéressant. Il faut savoir que, par exemple, pour une motion de censure, on vote la motion de censure ou on ne la vote pas. Il n'y a pas d'abstention. Et voilà. Pour un vote de confiance demandé par un Premier ministre dans le cadre du 49-1, c'est-à-dire après un discours, on peut voter pour, voter contre et s'abstenir. Il ne faut pas avoir la majorité forcément absolue des 577 députés, il faut avoir plus de oui que de non.
Donc, la majorité simple des gens qui sont là.
Majorité simple. Donc ça pouvait passer si le Rassemblement National s'était abstenu, on l'a dit depuis le début, et c'était la petite musique du Rassemblement National depuis le début de cette législature du Rassemblement National qui veut se normaliser. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que Jordan Bardella est parti sur cette idée, exactement. Visiblement, en tout cas.
Mais il se passe un quart d'heure seulement.
Il se passe un quart d'heure.
Même pas d'ailleurs. Enfin,
et puis Marine Le Pen ferme la porte complètement. Donc on a le Jordan Bardella plutôt libéral, plutôt union des droites, plutôt ami avec Ciotti, etc. Et on a la Marine Le Pen un peu plus populiste, un peu plus sociale, qui ferme la porte. Plus Marine Le Pen est sans doute...
Elle va plus loin, elle parle de dissolution.
Oui, elle réclame la dissolution. Mmh. Oui, parce que... Alors c'est compliqué pour elle, parce qu'après, si elle ne pourra pas se présenter aux législatives, elle est sous le coup d'une inéligibilité, mais enfin, là, on quitte le débat présidentiel dans lequel elle est plombée.
Non, mais alors, il y a peut-être aussi autre chose, parce que moi, j'ai eu, avant Marine Le Pen, Laurent Jacobelli, qui est porte-parole du RN et qui est député de Moselle, donc ces gens sont en contact avec les gens de leur circonscription. Oui. Il y a peut-être aussi une fracture entre Jordan Bardella, président du parti, qui lui est au Parlement européen, je ne dis pas qu'il ne rencontre pas des gens, mais eux, en tout cas, savent que pour se faire réélire, il faudra à un moment donné être en phase avec le pays. Et peut-être que c'est aussi la dichotomie entre le RN qui est au Parlement français, à l'Assemblée nationale, qui, en cas de dissolution, parce qu'on ne sait pas si, pourquoi pas, là, on sait que la dissolution, depuis juillet, elle est possible à nouveau.
Oui, et puis le RN a sans doute peur de se faire voler, enfin, de laisser la place à la France insoumise dans le cadre du 10 septembre. Il ne faut pas apparaître comme, finalement, faisant partie du système en s'abstenant.
Voilà. S'il y a plus de gouvernement le 8, ça sert à quoi le 10 septembre? Ça existe encore.
Demander la dissolution, bloquer tout, je sais pas, ça peut le rebooster en tout cas.
C'est pour demander un gouvernement qui serait peut-être plus en phase.
Ça le rebooste ou est-ce que ça l'étouffe? En fait, ça étouffe la contestation ou ça lui donne une autre forme? C'est très difficile. C'est censé être le téléphone sonne de demain.
Oui.
Allez-y quand même.
Je pense que ma réponse sera aussi nébuleuse que le 10 septembre est arrivé de manière nébuleuse. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez quand même au mois de mai des premiers messages qui venaient d'un groupe souverainiste anti-vax pro-russe qui s'appelait les Essentiels France. Ça s'appelait comme ça, ce groupe qui voulait réenraciner la France. Et puis il a fallu ensuite que se greffe à ça des appels syndicaux et surtout Jean-Luc Mélenchon, là, mi-août, après avoir lui-même dit qu'il fallait surtout pas se mélanger à ça, qu'il fallait que le mouvement soit indépendant, et à partir de là, ça a pris une autre dimension. Je sais pas ce que devient le bloc en tout. Un mercredi, c'est un mercredi le 10 septembre, dans la foulée d'un gouvernement Bayrou qui pourrait tomber donc le lundi précédent, deux jours avant. À mon avis, on va être dans d'autres considérations, ça va remonter directement Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a envie de rejouer aux petits chevaux en renommant un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, ou Madame Vautrin, je ne sais pas qui, dans le bloc central? Est-ce qu'on recommence un socle commun bis avec LR, un nouveau gouvernement à l'infini qui serait à nouveau censuré en série? En fait, ce qu'on n'a pas encore la capacité à mesurer, puisqu'il faut attendre le 8 septembre pour être fixé, mais c'est à quel point Emmanuel Macron a peut-être, là, dans les semaines qui viennent, la fin du quinquennat entre ses mains, et peut-être une fin prématurée du quinquennat entre ses mains.
Et c'est exactement...
Parce que la pression va être énorme si jamais il y a un appel à la dissolution, à nouveau, s'il enchaîne les gouvernements qui tombent, que rien ne se passe, que le budget est encalminé, tout va revenir sur sa tête à lui en disant, vous, président de la République, c'est vous qui avez les clés du déblocage. Qu'est-ce que c'est le déblocage? C'est retour aux urnes.
Et c'est exactement la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon... Jean-Luc Mélenchon appelle à amplifier le mouvement du 10, et là encore, la gauche, le Parti communiste, les Verts, et le PS, Olivier Faure, qui, lors des journées d'été des Verts, a dit « on y va, on part sur ce mouvement-là ». Je pense que, justement, dans l'intervalle où il va y avoir la chute de Bayrou, s'il y a chute de Bayrou, bien sûr, et la constitution d'un nouveau gouvernement, le mouvement va s'amplifier, parce qu'en réalité, ce que cherchent aujourd'hui les plus puissants à gauche, en l'occurrence LFI, c'est à ce que Emmanuel Macron reprenne l'initiative et éventuellement... prennent acte de ce que, en réalité, il n'arrive à rien avec ses différents gouvernements. Il a tenté Barnier, ça n'a pas fonctionné. Bayrou, finalement, se fait harakiri tout seul. Et ils vont demander à ce qu'on rebatte les cartes. Donc, deux solutions, la dissolution, voire ce que croit Mélenchon, une présidentielle anticipée avec une démission.
C'est vertigineux, en fait.
C'est vertigineux.
Ah, oui. C'est vertigineux parce que, d'abord, rappelons que aucun, depuis 1958, aucun Premier ministre n'est tombé sur un vote de conscience.
Et surtout, ils n'y vont pas quand ils savent qu'ils n'ont pas la majorité absolue. Oui, confère Michel Rocard, confère Borne, confère Attal et confère Barnier. Les trois ne font pas de vote de confiance parce qu'ils savent qu'ils vont au
gaspillage. Donc si on poursuit la ligne que vous avez entamée, Yael Gauz et Laurence, et qui va jusqu'à une éventuelle démission du président de la République, dans un moment où Marine Le Pen est inéligible, hein, la seconde instance n'a pas encore donné son avis, on rentre dans une crise assez aiguë et un moment d'incertitude très fort.
Après, ce qui plaide pas du tout en faveur de ça, c'est la situation internationale et la manière dont Emmanuel Macron est très très investi, notamment sur les dossiers au Proche-Orient et en Ukraine. On voit mal un président de la République dire « Bon, bah, puisque ça va mal dans mon pays, je laisse tomber le monde. » Enfin, en tout cas, ça ne correspond pas à sa psychologie, je pense.
Remarque, juste pour rebondir sur Laurence, je fais le lien avec l'international. Bien sûr. Que je voulais vous dire sur le 10 septembre, c'est que vous avez au Quai d'Orsay Viginum, vous savez, cette cellule qui veille aux ingérences étrangères sur nos réseaux français et sur notre actualité française. Et à chaque fois que le 10 septembre est évoqué, ce week-end, ce qui est monté très fort, ce sont des réseaux pro-russes, pro-iraniens et MAGA, la base trumpiste, qui poussent à fond ce mouvement du 10 septembre pour déstabiliser une démocratie européenne puissante, une démocratie française, pardon, puissante en Europe. C'est l'idée à chaque fois. C'est-à-dire que le 10 septembre sert aussi, et cette crise liée au vote du 8 septembre va être un révélateur aussi de ceux qui nous veulent du mal quelque part à l'étranger.
Donc puisqu'il faut bien, on est bien obligé de faire de la politique fiction et de la prospective un petit peu à l'aveugle. Si on réfléchit ensemble, on va plutôt vers une recherche de temporisation avec une personnalité assez consensuelle.
Ah bah dis donc, si vous avez un nom, surtout n'hésitez pas.
Non mais voilà, qui surtout ne fasse pas grand-chose pendant...
Non mais, j'ai l'impression que vous me
l'hypothèse du gouvernement technique va
non,
se
mais,
trouver.
Oui, non, mais gouvernement, vous, j'ai l'impression
du gouvernement
vous...
Polochon.
Oui c'est ça, mais j'ai l'impression d'avoir une conversation qu'on a eue ensemble il y a un an, Thomas.
Oui, enfin, oui bien sûr, la vie est un éternel.
On est toujours parti là en attendant effectivement ce fameux Premier ministre.
Ou alors Emmanuel Macron piège typiquement LFI et Jean-Luc Mélenchon en disant le NFP, allez-y maintenant, Lucie Castet, débrouillez-vous avec, avec la dette, ça pourrait être aussi une solution. Non, c'est de la politique fiction.
Avant d'y aller, pourquoi pas vers votre projection potentielle, Laurence Perron, on a Alain sur WhatsApp qui nous dit ceci, comment on peut faire confiance à François Bayrou après ce qu'il a fait avec le conclave, nous dit-il. On donne les Français comme responsables de la dette, on serait des paniers percés parce que les responsables sont ceux qui ont laissé filer les recettes de l'État par une politique de l'offre plus que litigieuse qui n'a fait qu'ubériser la société, fragiliser les petits. Ce que je trouve intéressant dans ce que nous dit Alain, c'est cette idée que on dit aux Français, c'est vous qui êtes responsable. C'est en tout cas comme ça qu'il le vit. Vous avez laissé filer, vous êtes des paniers percés.
C'est cette mécanique-là qui fait le succès pour l'instant uniquement numérique du 10 septembre. Alain, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que Alain, quand on lui propose des réductions de financement, enfin des économies, peut-être qu'une par une, Alain ne les accepterait pas. Moi non plus, Laurence non plus, personne ne les accepte. On en revient au début. Le problème, c'est que à partir du moment où nous sommes dans un système où il n'y a pas de compromis, où on ne fait pas de compromis, les partis ne font pas de compromis, chacun est pour sa petite chapelle, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire des économies, mais personne ne veut faire des économies dans son domaine. Pour pouvoir faire des économies dans son domaine, alors Alain, qui m'a l'air d'être plutôt de gauche, voudra qu'on taxe plutôt les riches, pour pouvoir taxer les riches et faire accepter ça à une majorité de parlementaires, il faut qu'il y ait des compromis. Et pour qu'il y ait des compromis, il faut qu'on ait une culture de compromis. Et pour qu'on ait une culture de compromis, il faut que les élections se passent selon moi, à la proportionnelle. Parce que à la proportionnelle, on y revient toujours, à la proportionnelle, professionnel.
Enfin, surtout vous.
Oui, mais quand on, non, mais quand on se présente, et d'ailleurs François Bayrou aussi, à la proportionnelle, quand on se présente, on sait qu'on n'aura pas la majorité absolue, et donc on ne tape pas sur son voisin idéologique, et on fait en sorte que celui qui gagne à la proportionnelle n'applique pas tout son programme. Son programme est simplement la base de la négociation avec ses voisins. C'est ce qui se passe dans plein de pays démocratiques.
Parce qu'on pourrait s'amuser, puisqu'on a fait un peu de politique fiction, et c'est bien normal, là où nous en sommes aujourd'hui, s'il y avait une dissolution et donc une élection législative demain, est-ce qu'on se dit qu'on retrouverait une assemblée qui ressemblerait peu ou prou à quelques, à une petite différence près seulement à celle que nous avons aujourd'hui ? Est-ce qu'on imagine tout à fait autre chose ? Est-ce qu'on imagine cette fois un RN qui aurait la majorité absolue ? Ou est-ce que même
à
pas
gauche, ça serait relative, une majorité relative, peut-être. En fait, c'est difficile.
Difficile parce qu'en plus, alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça va obliger la gauche, pour le coup, à reprendre langue. C'est-à-dire qu'ils se sont quand même vraiment tapés dessus tout l'été, et même avant l'été.
Reprendre langue entre eux, vous voulez dire
oui,
gauche social-démocrate, LFI, écolo.
Jack Lang.
Oui, reprendre langue. Oui, pourquoi pas.
Non,
mais
on pas le droit.
Effectivement, Olivier Faure, quand il dit oui, d'accord, banco pour le 10 septembre. Il y a aussi, il a clairement dans l'idée que maintenant réaffermi par un congrès qu'il a gagné de très très haute lutte, n'arrivera pas tout seul et qu'à un moment donné, il va falloir que il arrive à reparler un peu avec Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il arrivait toujours à faire avec les Verts, etc. C'est-à-dire que s'il y a une élection législative qui arrive bientôt, la gauche va devoir refaire d'une manière ou d'une autre un NFP.
C'est ça qui a changé. C'est la seule chose.
Alors voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on peut...
C'est plus la même chose. Ouais. Le Front républicain qu'on
voilà.
disait
est-ce
déjà
qu'on peut
moribond,
se projeter sur un Front républicain.
Il est presque mort. Aujourd'hui, avec avec LFI et Jean-Luc Mélenchon qui volontairement hystérisent le débat, punit des journalistes en les privant d'accréditation à ces universités d'été, s'attaque même à Zelensky publiquement. Quand vous avez un LFI et Jean-Luc Mélenchon qui fait ça, comment voulez-vous derrière qu'un modéré dans un deuxième tour face au RN disent je vais voter plutôt LFI que m'abstenir ou RN.
Alors un électeur modéré, donc, oui, peut-être.
Non, mais Laurent, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui a changé par rapport à la dissolution et le nouveau Front populaire version juillet 2024, c'est qu'il est, à mon avis, très illusoire de penser que le Front républicain fonctionne de la même manière avec le RN.
Mais même qu'il y aura-t-il même un Front républicain. Je voudrais juste vous interrompre avec cette phrase d'Olivier Faure, il est dans Le Monde ce soir, il est inimaginable que les socialistes votent la confiance à François Bayrou. Ce qui ne veut pas dire qu'ils voteront non. Enfin, moi, on est dans la même ambiguïté que le premier Bardella. C'est-à-dire, on vote pas oui, mais pour l'instant, on peut aussi s'abstenir.
Ça change rien.
Ça changera pas grand-chose sur l'arithmétique. Ça changera même rien sur l'arithmétique en réalité.
Non, de toute façon, ils sont 66. Les enlève,
Il aurait fallu qu'il vote. Si le RN s'abstient, si le PS s'abstient, ça change rien.
Ça change rien.
Après, on sait aussi comment il fait la politique. Est-ce que ça a du sens d'imaginer qu'il y a quand même 15 jours à venir et qu'il peut se passer des choses pendant ces 15 jours ?
Oui, ça par contre,
Jean-Laurent se couvre des yeux, rond comme des billes, donc non, vous dites que...
Non, là, au moment où on se parle, le jeu paraît bloqué et l'avenir de François Bayrou, vraiment sombre, puisque arithmétiquement, il chuterait. Si maintenant le vote de confiance avait lieu, maintenant, il chuterait. Mais est-ce qu'il n'y a pas avoir un dernier sursaut sur, justement, donner les quelques gages que demande le Parti Socialiste sur la taxation des hauts revenus ? Stéphane Le Foll, tout à l'heure, disait, l'ancien porte-parole du gouvernement de
François Hollande.
Il disait 44 milliards d'euros en une année d'économie, c'est trop. Est-ce qu'on ne peut pas réduire à 25 ? 20, 25, 30 milliards. Vous voyez, sauf qu'on n'en prend pas le chemin, puisque François Bayrou dit « Je vous demande juste la confiance sur la dette ».
Mais quand on regarde les revendications justement du 10 septembre qui fait peur à tout le monde, on se rend compte aussi que les gens sont à bout. C'est-à-dire que, d'un côté, les agriculteurs ne font plus confiance. On leur a dit qu'on allait leur voter une loi faite sur mesure pour qu'ils puissent à nouveau avoir des revenus. La loi du plomb n'a rien réglé. En plus, le Conseil constitutionnel a fini par les fâcher. De l'autre côté, à gauche, les gens ont l'impression qu'il n'y a plus d'espoir et qu'à un moment donné, c'est toujours sur eux que ça repose. On est quand même dans une période de rentrée des classes où les gens vont avoir à payer les cartables, les activités scolaires, où il ne va pas y avoir forcément un prof.
Foncière.
La taxe foncière, pas nécessairement un prof devant chaque classe. Tout ça, c'est des ferments de colère et on peut quand même dire une chose sur Emmanuel Macron et François Bayrou n'a pas changé la donne. Il n'y a jamais d'espoir. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de récit qui est raconté aux Français. On leur dit, on va faire des économies. 44 milliards d'économies. Mais derrière, on arrive à quoi ? Non, là, François Bayrou a
mais j'entends,
jonglé avec des milliards qui, en fait, 2 000 milliards, ça ne parle à personne. Mmh. 66 milliards d'intérêt de la dette. En fait, les Français se disent mais 66.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que ouais, quand vous additionnez le budget des armées et l'éducation nationale et que vous dites ça, additionné, ça fait moins que ce que vous payez pour vos dettes. Bah si, c'est l'image de la famille et du foyer que prend François Bayrou.
À vous, Yael Gauze. Mais je ne suis pas sûre que ça parle aux gens.
Bah, d'accord, mais on ne peut pas dire que c'est un sujet virtuel.
Bah, quand on regarde les questions, la conscience de la dette, on a ici une question qui dit mais après le Covid, notamment, on a forcément fait de la dette et forcément, il faut rembourser cette dette aujourd'hui. Donc la conscience de la dette, ça, pour le coup, elle existe vraiment. Après,
mais je pense qu'il faut donner un chemin aux gens pour leur expliquer.
Exactement, et je reviens à la question de notre auditeur tout à l'heure qui disait, c'est pas qui, c'est comment, et surtout, dans quelle direction. La situation se grippe dangereusement, nous dit Eric. L'absence de compromis, notamment pour l'élection. Macron est au pied du mur. Il est détesté à l'intérieur du pays, un niveau jamais atteint. Alors, il faudra regarder d'ailleurs, parce que François Bayrou était à 18%. Je ne sais pas où en est Macron aujourd'hui. Les extrêmes et le populisme semblent prendre le dessus. Il est temps de retrouver une mandature de sauvegarde dans l'intérêt du pays. Mandature de sauvegarde, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je reviens à ce qui était une partie de notre discussion tout à l'heure. On va se retrouver effectivement face à un gouvernement technique qui... On peut se retrouver face à un gouvernement technique qu'on a rayé d'un trait de plume toute cette dernière année, en fait, après la dissolution, mais qui a toujours été dans la conversation.
Il y a quelque chose qu'on n'a pas essayé et qui est dans la logique, en tout cas qui est dans la logique du discours de Bayeux 1946 du général de Gaulle, c'est de dire que le président de la République est au-dessus des partis et qu'il remet aux partis politiques le soin de s'organiser et de faire une majorité. Donc en fait, ce qu'on n'a pas essayé, mais
ils n'ont pas réussi depuis la dissolution.
Non, mais on ne leur a pas demandé.
Emmanuel Macron, dans ses vœux régulièrement, disait oui. J'appelle les partis à être.
Il les a reçus d'ailleurs amplement.
Non, il les a reçus, mais ce n'est pas à lui de faire ça. Oui. C'est aux partis. C'est aux partis eux-mêmes. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui n'a pas essayé. C'est les parlementaires. C'est-à-dire que quand la gauche a dit on est en tête, et donc ça sera Lucie Castet et qui fera uniquement ce que la gauche veut. Alors qu'elle n'avait pas la majorité absolue, Lucie Castet, si elle avait dit eh ben, voilà, je suis au centre du jeu et je vais m'ouvrir, puisque je n'ai pas la majorité, je vais m'ouvrir aux macronistes, au bloc central, bah, là.
Il aurait fallu qu'elle soit nommée déjà, ça.
Voudrais revenir à ce que disait Laurence Perron. Vous dites qu'on n'a pas essayé. On a essayé LR, on a essayé le centre, on n'a pas essayé la gauche. Macron peut aussi faire ce calcul.
C'est pas Macron. Les parlementaires devraient se réunir et dire on va dégager une majorité qui aille.
Mais le président
de Ruffin à de Ruffin au centre droit, et ça fait une majorité relative.
Le centre droit, vous mettez qui? Vous mettez Gérald Darmanin à l'intérieur du centre droit qui est au gouvernement?
Tout le bloc central.
Mais c'est vrai qu'on n'a jamais essayé la gauche.
Mais la gauche n'est pas majoritaire.
Mais
pas la majorité absolue.
Oui, mais alors est-ce que François Bayrou était majoritaire?
Non.
Est-ce que Barnier était majoritaire?
Il faut aller plus loin.
Ah oui, ça c'est ce que vous proposez.
C'est pas ce que je propose,
Pour aller plus loin, attendez, on a fini vraiment, il faut vraiment qu'on s'arrête. Pour aller plus loin, il y a un téléphone sonne demain, on était parti pour faire une émission sur le 10, mais peut-être que ça évoluera. Je vous signale que Jean-Luc Mélenchon sera l'invité du 8h20 de France Inter demain, donc cette conversation n'est pas terminée.